Et maintenant, on va retrouver Bobonne, les mots croisés et la radio.
La beauté d'une voix, c'est qu'elle remplit seule une salle immense.
Restez une minute, je viens vous parler.
Je vous écoute.
Bientôt, l'heure de la révolution nationale sonnera.
Et vive la reine !
Vive la reine !
Bonjour, c'est Lucie, vous écoutez La Reine, c'est l'émission d'information locale de Canal B qui commence et au sommaire aujourd'hui. L'info du jour, Rennes avec d'autres villes attaque l'État en justice sur la question de l'hébergement d'urgence. Compte rendu du conseil municipal de lundi à la ville de Rennes, il y aura de la musique dont une nouveauté. Une interview pour annoncer un hiver non humain à l'hôtel Pasteur avec l'équipe du fanzine Cui-Cui. Et puis deux recommandations pour occuper votre mercredi, transition énergétique et lecture. Bienvenue dans La Reine. Allez, comme chaque jour, on débute cette émission avec l'info du jour que j'ai choisi pour vous dans ce qui se raconte dans les médias locaux. C'est pas une info de première fraîcheur aujourd'hui, mais je voulais quand même en parler. Rennes fait partie de 5 grandes villes de France à avoir attaqué l'État en justice jeudi dernier, le 15 février, pour dénoncer le manque criant de places d'hébergement d'urgence sur le territoire. Ces 5 villes, on les cite, Rennes, Strasbourg, Lyon, Grenoble et Bordeaux. Elles ont en commun d'être dirigées par des maires socialistes ou écologistes et elles dénoncent ensemble un système à bout de souffle, symbolisé par le 115 saturé qui ne répond plus à tous les appels. Ce constat de situation dégradée, il est confirmé par la Fondation Abbé Pierre qui, dans son dernier rapport, comptabilise près de 330 000 personnes à la rue et parmi elles environ 3 000 enfants. L'outil utilisé par ces municipalités, c'est un recours contentieux déposé auprès de leur tribunal administratif respectif. Des recours gracieux avaient déjà été déposés en préfecture mais sans résultat. Alors là, ces villes espèrent obliger l'État à réformer sa politique d'hébergement d'urgence et réclament également le remboursement des sommes dépensées pour cet hébergement, soit 3 millions d'euros par an, rien que pour la ville de Rennes, sur ce qui est, on le redit, une compétence d'État. Allez, après cette info du jour, retour sur le dernier conseil municipal à la ville de Rennes.
Bien, mes chers collègues, si vous voulez bien prendre place pour que nous puissions débuter notre séance, je vais procéder à l'appel. Monsieur Hervé, Madame Rougier, Monsieur Travers, Madame Briero, Monsieur Nadessan.
Après l'info du jour, retour sur le conseil municipal du lundi 19 février, un moment qui se déroule toujours en présence des 61 conseillers et conseillères municipaux de la ville de Rennes. Comme à chaque fois, ça se passe à l'hôtel de ville à partir de 17h. Et là, 46 points étaient inscrits à l'ordre du jour pour une séance qui a duré environ 5 heures. En début de séance, la parole elle est toujours laissée aux habitants qui en ont fait la demande au préalable, puis aux groupes politiques. Ils sont 7, on les représente. Il y a le groupe socialiste qui, avec le groupe écologiste, Génération, le mouvement radical et le groupe communiste, forment la majorité. Dans l'opposition, on retrouve le groupe Renaissance Révéler Rennes et le groupe d'union de la droite Libre d'agir pour Rennes. Ces prises de parole, là, ce sont des moments de tribune qui portent souvent sur des sujets plus nationaux, voire internationaux que locaux. Pêle-mêle, il a été question de l'État et de la transition écologique, de la pénurie de logements ou encore de Robert Badinter, ancien garde des Sceaux décédé la semaine dernière. Alors ce conseil, c'était une séance budgétaire. C'est le moment où le budget de la municipalité est soumis au vote des conseillers et conseillères municipaux. Les 8 premiers points de l'ordre du jour y étaient consacrés. Un budget dont le montant s'élève à 463 millions d'euros. C'est plus 1% par rapport à l'année dernière, principalement en lien avec l'inflation et des hausses salariales chez les personnels de la ville. Ce budget, il a été construit dans un contexte qui reste très incertain, même si le coût de l'énergie est en baisse, avec le souhait, malgré tout, de maintenir un niveau d'investissement important dans les équipements publics et la transition énergétique, et ce, sans augmenter la part locale de la taxe foncière. On écoute Mathieu Theurier, c'est l'adjoint délégué aux finances et à l'administration générale, sur ce contexte-là qui semble s'améliorer.
Depuis les élections municipales 2020, les collectivités locales et au rang desquelles les villes comme les nôtres ont fait face à une succession de crises, que ce soit le Covid-19, la guerre en Ukraine avec des conséquences fortes au plan économique, social, mais aussi sur les coûts de l'énergie et de l'inflation ou encore les évolutions de taux d'intérêt plus récemment. Et ce contexte d'incertitude, il est toujours présent au moment où nous votons, où nous avons à voter notre budget primitif 2024. Il semblerait cependant que les prix de l'énergie reviennent à des niveaux qui soient plus raisonnables, sans que l'on soit certain que cette tendance se maintienne dans le temps. De même, l'inflation sur l'alimentation ou les travaux tend elle aussi à s'éroder. Mais il faut bien avoir en tête que pour autant, les niveaux de prix restent élevés, plus élevés que ce qu'on a connu ces dernières années. Et puis, un autre élément d'incertitude, même s'il impacte notre collectivité de façon moindre qu'une collectivité comme le département, par exemple, c'est le coup d'arrêt complet au niveau national sur le marché de l'immobilier, sans perspective de reprise à ce jour, et qui rend incertain un certain nombre de recettes fiscales, notamment liées aux droits de mutation.
Toujours sur le budget, les présidents et présidentes de commission ont ensuite pris la parole à tour de rôle pour détailler les orientations budgétaires dans les différents secteurs, culture, sport et vie associative, solidarité, éducation, aménagement et sécurité. Et c'est à ce chapitre que l'adjointe à la sécurité, Lénaïque Briéro, a annoncé la mise en place à venir d'un bureau mobile de proximité. Pour faire simple, c'est un bus qui devrait arriver d'ici l'été et qui se déplacera dans les quartiers pour échanger avec les habitants. La présentation de ce budget a ensuite laissé place aux réactions, notamment de l'opposition. Le conseiller Antoine Hénaud du groupe Renaissance à Révéléraine regrette le versement de subventions à des associations qu'il juge trop politisées, et ce n'est pas la première fois que ce reproche revient. Il cite cette fois l'équipement de l'Antipode, et je vous laisse l'écouter, car ces propos me semblent un peu dangereux, en tout cas pour la liberté du monde associatif.
Ce centre culturel appartenant à la ville de Rennes est géré par une association très militante. Au sein du centre, on organise par exemple des réunions pour protester contre les groupes de niveau qualifiés de ségrégation scolaire. Chacun pensera ce qu'il veut du terme employé. Oui, mais la démocratie ne se fait pas aux frais du contribuable. Sur la façade du bâtiment, on pouvait encore observer il y a peu une banderole affichée en étendard contre la réforme des retraites. Les exemples d'événements de ce genre dans les bâtiments de la ville de Rennes sont nombreux et nous déplorons l'absence de contrôle par la municipalité qui continue de subventionner fortement les associations gestionnaires. Cela constitue un manquement au principe de neutralité auquel devrait pourtant se conformer notre ville. En ce sens, nous vous demandons d'adopter une plus grande vigilance dans l'exécution de ce budget afin que certains bâtiments de la ville de Rennes cessent d'être des espaces militants. Vous pouvez rire, c'est une réalité. De plus, et même si les montants sont généralement plus symboliques, nous nous opposerons toujours au financement de certaines associations appelant directement à désobéir à la loi, ce que vous appelez la désobéissance civile, et qui, je dois vous le dire, n'est autre que de la sédition. Il en va de même pour les associations qui combattent les valeurs qui font le ciment de notre République, telles que l'universalisme, ou qui manifestent leur haine d'Israël sous couvert de soutien à la Palestine.
Antoine Hénaud du groupe Révéléraine qui a annoncé voter contre ce budget primaire présenté en conseil municipal. On change de dossier. L'une des promesses de ce conseil, c'était de découvrir les premières images des quais de Vilaine sans parking. Un parking qui aujourd'hui voit 1400 à 1700 véhicules chaque jour s'y arrêter. La fin du parking Vilaine, c'est une promesse de la maire Nathalie Appéré pendant la campagne des municipales de 2020. Alors il va falloir être encore un peu patient puisque c'est en 2028 que le fleuve sera découvert et donc à l'air libre entre les galeries Lafayette et la place de Bretagne pour que vous visualisiez un petit peu un projet qui comprend l'aménagement de pontons, d'un belvédère, de 200 arbres sur le quai nord et de 4500 m² d'espace vert devant République. L'objectif de tout ça, il est double, désimperméabiliser et puis refaire de la place à l'eau en ville. Le détail dans le point numéro 9 du conseil avec Marc Hervé, il est conseiller municipal adjoint à l'urbanisme.
Ce sont des espaces qui ne sont pas prévus pour être des zones de flux, mais plutôt des zones de rencontres, de pauses, où on puisse prendre un temps. Et on a souhaité végétaliser tout en sachant pertinemment qu'on était sur un sol dur, puisqu'on est sur la dalle, qu'il n'y a pas de pleine terre, et pour cause, la Vilaine coule en dessous. Mais on souhaitait pouvoir aussi débitumer, déminéraliser cet espace-là pour profiter d'un îlot de fraîcheur. Donc on a un grand défi, c'est à la fois de trouver le bon substrat pour permettre la pérennité de la pelouse, tout en ayant une gestion de l'alimentation en eau, normalement naturelle, de ces espaces-là. Et donc il va falloir trouver les bons compromis, mais c'était au maître d'œuvre Phytolab de travailler ce point précis-là. On voit un espace un peu hybride en bas aussi, entre la deuxième pelouse et le pont Jaurès. C'est un espace qui sera minéral, mais avec des jointures gazon qui permettra malgré tout le stockage de l'eau et de traiter une forme de désimperméabilisation. Pourquoi cet espace-là ? Parce qu'il a vocation à être l'espace événementiel des quais de Vilaine. Donc il faut qu'il soit carrossable, qu'il puisse être emprunté par un certain nombre de véhicules, de la même manière que dans l'interstice entre cette zone hybride entre végétal et minéral et la pelouse, on a le long des arbres d'alignement un kiosque qui vient rappeler ce qu'est le kiosque marchand, qui peut permettre à celles et ceux qui le souhaitent de se désaltérer. Ce sera aussi peut-être la question des toilettes publiques, des réseaux techniques qui seront localisés dans cet espace le long des alignements d'arbres.
Petite précision, le démarrage des travaux, donc de la découverte du parking Vilaine, il est prévu pour 2025 sur une durée de 8 à 9 mois et le budget de tout ce gros projet s'élève à 26 millions d'euros. Alors l'opposition, elle est divisée sur la question. Le groupe d'opposition Renaissance Rêver les Rennes a voté pour. Le groupe d'union de la droite Libre d'agir pour Rennes y voit une erreur. Explication avec les voix de Charles Compagnon d'abord pour le groupe Libre d'agir pour Rennes, puis avec Carole Gandon de Rêver les Rennes.
Mais revenons à la destruction du parking Vilaine et à la chasse à la voiture, car c'est bien de cela qu'il s'agit. Cette chasse à la voiture et à ses utilisateurs est d'ailleurs préoccupante car elle devient obsessionnelle. Depuis 3 ans, nous avons fait un certain nombre de propositions alternatives concernant le parking Vilaine. Je vous rappelle rapidement, nous avons proposé la possibilité de réserver un maximum de places de parking pour les véhicules hybrides, électriques ou hydrogènes. Nous avions proposé à l'Est de réserver un équipement avec des préaux couverts de panneaux solaires pour abriter les vélos à assistance électrique et offrir aux usagers la possibilité de les recharger gratuitement. Le tout en repaysageant l'ensemble du projet, notamment sur ses abords. Ainsi, les véhicules qui rentreraient au cœur de la ville pour se stationner seraient plus silencieux, sans émission de CO2, ce qui est, je crois, le but que vous cherchez à atteindre. Mais le groupe écologiste a fait de la destruction de ce parking un totem, ce qui fait que vous rejetez toute proposition alternative. Concernant le commerce, je ne crois pas qu'il se porte mieux aujourd'hui qu'hier. Les nouveaux modes de consommation ont bien sûr leur part de responsabilité dans la dégradation de fréquentation de nos commerces, commandes en ligne, livraison, Amazon, etc. Mais la politique de l'aménagement de la ville et de son centre, son accès rendu de plus en plus difficile, pour ne pas dire parfois impossible. La chasse obstinée, je le disais, à la voiture, toutes ces mesures ont aussi leur part de responsabilité dans la dégradation de la qualité du commerce de cœur de ville. Vous avez votre part de responsabilité.
Donc nous ne reviendrons pas aujourd'hui sur le choix, pour le moins regrettable, de supprimer le parking Vilaine, ni sur le mode de décision choisi. Un jury citoyen de 30 personnes tiré au sort, méthode qui nous semble assez aberrante sur un projet d'une telle ampleur et aussi structurant. Était-ce bien la meilleure méthode d'ailleurs ? On est en droit de s'interroger, puisque vous venez d'indiquer que vous n'allez pas finalement suivre toutes leurs recommandations, toutes leurs propositions.
Contredit.
Nous souhaitons cependant renouveler notre demande, déjà formulée, d'augmenter la capacité du parking Kléber d'environ 120 places supplémentaires, grâce par exemple à l'élévation d'un étage. L'objectif étant de compenser la suppression donc, de ce parking et des places aux abords du Palais du Commerce et de République. Nous restons inquiets concernant la qualité de l'eau qui s'apprête à être découverte à cet endroit de la ville. Inquiets également sur les possibles nuisances liées aux usages des abords de Vilaine, avec des risques de privatisation ou de squat. Et inquiet concernant les nécessaires besoins de sécurisation donc de ces nouveaux aménagements. Cependant, globalement, sur le papier, le projet présenté nous semble répondre à beaucoup des enjeux urbains propres à ces espaces, enjeux de circulation douce, enjeu d'apaisement des espaces, enjeu de végétalisation. Voilà. Ce projet reprend quand même beaucoup des idées que nous avions proposées dans notre projet Mille et une Vilaines, et nous avons donc la sensation d'avoir été entendus. Le dernier point sur lequel on va s'arrêter, c'est la rénovation à venir du groupe scolaire Albert Demain dans le quartier Sud-Gare. C'était le sujet du point numéro 10 de la séance. En résumé, le bâtiment actuel, il va être rénové et un bâtiment neuf sera construit pour de nouvelles classes, la restauration scolaire et puis l'inclusion scolaire d'enfants non ou malvoyants du pôle Angèle Vanier. Budget annoncé pour tout ça, 7 millions d'euros pour un rendu qui est attendu en 2027. Ce sujet, il a fait naître un échange animé au sein du conseil municipal, complètement détaché du projet de rénovation dont il était question, et plutôt en lien avec la politique éducative menée par le gouvernement en ce moment. Pour que vous situiez bien, vous allez entendre Olivier Roulier, il est conseiller municipal délégué au quartier Sud-Gare. Ensuite, recadrage de la maire socialiste Nathalie Appéré, en réaction à l'interpellation de Loïc Lebrun. Il est conseiller municipal dans le groupe Libre d'agir pour Rennes et reproche un propos trop politique à la majorité.
Face à une opposition unanime, à une mobilisation inédite, puisqu'elle réunit aussi bien les enseignants, les parents d'élèves, les personnels de direction, les chercheurs et jusqu'au Conseil supérieur de l'éducation, qui tous alertent sur des mesures qui, sans élever le niveau général, pourraient au contraire aggraver encore les inégalités scolaires, le Premier ministre annonçait récemment qu'il l'assumait. Mais qu'assume-t-il au juste ? Le fait de fragiliser encore plus un service public en quête de sens, de priorité et de capacité à pleinement remplir ses missions ? Le fait de renforcer la défiance des enseignants vers leurs institutions qui semblent sourdes aux attentes et aux réflexions du terrain ? Le retour en arrière sur 50 ans de démocratisation de l'enseignement à tous les enfants en mettant fin de facto au collège unique ? Une vision radicalement passéiste, classiste et autoritariste de l'école ? Sachez que si vous ne m'aimez pas, je ne vous aime pas non plus. Les ministres passent, mais le projet éducatif d'Emmanuel Macron se poursuit. La préférence pour l'inégalité, pour reprendre le titre d'un ouvrage du sociologue François Dubé.
Aucune insulte n'a été proférée par qui que ce soit.
Je ne vous ai pas insulté.
Monsieur Roulier a la parole.
Je vous laisserai rechercher la référence.
Monsieur Roulier, vous avez la parole.
L'école souffre avant tout d'ambition sans moyens et parfois de moyens sans besoin. Comment comprendre que l'on prévoit 2 milliards pour des uniformes à l'école et la généralisation d'un service national universel, 2 milliards donc pour la mise au pas de la jeunesse, quand dans le même temps les moyens manquent pour répondre aux besoins des élèves en situation de handicap, pour alléger les effectifs dans les classes, pour accompagner réellement la volonté d'une école inclusive pour toutes et tous, pour donner aux AESH un vrai statut et un vrai salaire au sein de l'éducation nationale, pour créer enfin les places et les postes nécessaires dans les structures médico-sociales. L'école souffre aussi d'injonctions contradictoires et paradoxales qui proclament en même temps retour de l'autorité et cours d'empathie. Comment croire ces annonces de faire de la lutte contre le harcèlement à l'école une priorité nationale quand s'amorce une organisation en groupe de niveau qui, en séparant d'un côté les élèves en réussite et de l'autre ceux en difficulté, ce que d'aucuns entendront comme des bons et des mauvais élèves, crée les conditions mêmes de la stigmatisation et abîme l'estime de soi des élèves les plus fragiles.
J'ai bien noté que les visions que pouvaient avoir les uns et les autres de la démocratie et de la liberté d'expression pouvaient être différentes, mais reprocher à un collègue de tenir dans cette instance des propos politiques, oui, nous faisons ici de la politique. Précisément, ben, si nous avons été élus, nous tenons un mandat des habitants et des électeurs pour précisément tenir du débat politique. Mais ça n'a rien d'insultant, ça n'a rien de quoi que ce soit d'autre. Ce qui ne serait juste pas respectueux, c'est d'utiliser des capacités vocales que chacun reconnaîtra hors normes pour, le cas échéant, empêcher les collègues qui ont la parole de la prendre. Madame Rougier.
Un échange, celui que vous venez d'entendre, que je trouve intéressant justement à entendre d'un point de vue radiophonique. Ces ambiances, on ne les retrouve pas forcément dans les comptes rendus de presse du conseil municipal de Rennes. Le conseil, il a ensuite suivi son cours avec beaucoup de votes sur des versements de subventions, de renouvellement de conventions et d'autres mots en sion. Les séances du conseil municipal, si ça vous dit, elles sont à retrouver en replay sur le site metropole.rennes.fr. Prochaine séance prévue le 15 avril, toujours à 17h.
Emmène-moi sur l'eau, je veux quitter la terre sur ton joli bateau. Tous les deux vers les îles, loin de mon cœur gelé, vers une vie tranquille, emmène-moi ma beauté.
Où vas-tu petit frère, loin de tes caniveaux? Souvent c'est l'enfer de vivre sur les flots. Tous les deux vers les îles, tu ne sais même pas nager. Au pauvre rat des vies, et tu veux naviguer.
Emmène-moi dans le vent, renifler les maquereaux et les poissons d'argent, le soleil sur ta peau. Emmène-moi loin des villes, comme ces goélands. Pour toi je quitterai Belleville, j'oublierai Ménilmontant.
Ne fais donc pas l'enfant, retourne à tes moineaux, ton Aristide bruant, tes pigeons, tes corbeaux. Tu n'es plus très crédible, je crois tu perds ton temps. Tu dis ça à toutes les filles, et je ne veux pas d'amant.
Prends-moi au bout du monde, passager clandestin. Emmène-moi jolie blonde, je serai ton marin.
Va donc au bout du monde, voici c'est ton destin. Je ne serai pas ta blonde, je suis avec un marin.
Rassure-toi jolie fille, ni jaloux ni corneau. Laisse voguer notre idylle sur ton joli bateau.
Tous les deux vers les îles sur mon joli bateau. Réveille-toi imbécile et va prendre ton métro.
Nous trouverons asile sur tous les océans. La vie sera facile, mais nous prendrons le temps. Nous danserons les vagues sous la lune tous les deux. Et dans le champ des âmes, je t'embrasserai si tu veux. Nous trouverons asile sur tous les océans. Pour toi je quitterai Belleville, j'oublierai Ménilmontant. Nous danserons dans les vagues sous la lune tous les deux, et dans le champ des âmes,
si tu veux.
Et dans le champ des algues,
tu oublieras ta banlieue.
Nous trouverons asile sur tous les océans. La vie sera facile quand nous prendrons le temps.
Johnny Montreuil avec la voix que vous aurez reconnue de Rosemary Stanley, et c'était le morceau Vers les îles, une nouveauté musicale qui a été sélectionnée par Yann, notre programmateur musical ici à la radio, et qu'on retrouve sur un album Zanzibar, c'est son titre, sorti le 2 février. C'est le troisième disque pour ce musicien qui a posé sa caravane en Seine-Saint-Denis depuis bientôt 20 ans, d'où son nom de scène Johnny Montreuil. Vous pouvez le retrouver sur scène, tiens, très bientôt, au Ferrailleur à Nantes, à 1 heure de Rennes. Donc, la date annoncée, c'est le 15 mars prochain. Vous écoutez l'Arène, c'est l'émission d'information locale de Canal B, une émission qui se veut réflexive et combative et qui essaye aussi de résister aux réseaux sociaux. Je n'annonce donc plus le programme de cette émission sur Facebook, mais je vous en fais part à travers une newsletter, le courrier de l'Arène, qui est envoyé aux abonnés chaque vendredi. Un joli petit courrier qui met en lumière des reportages et des interviews réalisées durant la semaine. Pour vous abonner, rien de plus simple, il suffit de m'envoyer un email à l'adresse lucie@canalb.fr. Vous pouvez aussi retrouver un formulaire d'adhésion directement en ligne sur notre site canalb.fr. Allez, on continue l'émission avec maintenant l'interview du jour. Timothée Cantard, bonjour.
Bonjour.
Je vous présente, vous êtes le coordinateur du fanzine Cui-Cui, dont on a déjà parlé plusieurs fois dans cette émission d'information locale. Vous êtes alors de métier écologue et vous faites partie de l'équipe qui organise cet événement, un hiver non humain. Ça se passe à l'Hôtel Pasteur à Rennes le vendredi 23 et le samedi 24 février. On commence peut-être par donner des nouvelles de Cui-Cui qui a sorti donc son deuxième et dernier numéro pour le moment. C'était fin d'année 2023.
Oui, tout à fait. On l'a sorti en décembre 2023, juste avant l'hiver. Et donc c'est un numéro qui, comme le numéro 1, fait 36 pages et entièrement consacré aux vivants non humains de Bretagne.
On y découvrait quoi, si on peut donner envie aux auditeurs d'aller jeter un œil?
Alors on va y découvrir les aventures curieuses de la grue cendrée qui hiverne en Bretagne. On peut y découvrir des portraits de grives, des portraits d'espèces méconnues de lichens notamment. On peut y découvrir des histoires de chauves-souris ou encore des histoires de truites de rivière, et j'en dis pas plus qu'il y a quand même pas beaucoup de pages.
Vous étiez 16 pour donner naissance à ce deuxième numéro de Cui-Cui qu'on peut toujours acquérir ou pas si on veut le regarder, ça se passe comment?
Oui, alors on peut soit l'acquérir en ligne si on peut pas le trouver en librairie, ou sinon il est dans quelques librairies rennaises, et ça vous pouvez regarder sur les réseaux sociaux. On trouve assez vite les points de vente.
Et il faut dire qu'il y a une attention particulière qui est consacrée, on va dire, au travail graphique, ce qui en fait un très joli fanzine que je vous invite à découvrir. Vous n'êtes pas seul là sur l'événement qu'on annonce qui a lieu le week-end prochain, puisqu'on retrouve l'association Wild Bretagne, qui est aussi déjà passée dans cette émission il n'y a pas très longtemps, pour une programmation qui était présentée en médiathèque tout près de Rennes. Et on retrouve aussi la compagnie Les Frais, qui est implantée à Moisé, au nord-est de Rennes. Comment vous êtes retrouvé autour de cet événement-là?
Et ben en fait, ça a commencé à la sortie de Cui-Cui Hiver, où on avait la volonté de faire des événements partenariaux autour du sujet qui anime le fanzine, donc du vivant. Et tous les événements qu'on veut faire, ils sont avec des collaborations avec d'autres associations qui partagent un peu les mêmes problématiques, mais qui n'ont pas les mêmes approches que nous. Donc ça faisait déjà un bout de temps que je suivais ce que faisait Wild et la compagnie Les Frais. Donc en fait, on a eu l'idée de les contacter pour d'abord se présenter, voir ce qu'on faisait chacun de notre côté. Et puis j'avais aussi en tête de faire cet événement-là à l'Hôtel Pasteur avant même de leur demander s'ils étaient d'accord.
Et ils étaient d'accord.
Et ils étaient d'accord. Et donc on a mis un peu ensemble nos différentes compétences, nos différentes approches pour créer cet événement de toutes pièces. Mais vraiment, ça a commencé en décembre et on le fait en février, donc ça a été très vite.
Wild Bretagne, c'est une association qui défend les forêts sauvages, notamment à travers une exposition qui a été pas mal présentée aux habitants autour de Rennes. Et puis la compagnie Les Frais, je crois avoir vu sur les réseaux sociaux qu'elle avait mené des ateliers dans les arbres du côté de la Prévalet avec cette association qui s'appelle Là-haut et qui essaye de justement nous faire regrimper dans les arbres comme on le faisait quand on était enfant. Qu'est-ce qui vous interpelle chez ces deux structures? Qu'est-ce qui vous marque dans leurs actions?
Alors c'est des approches qui sont assez complémentaires. En fait, il y a vraiment une dimension immersive dans ce qu'ils font. Wild, en fait, ils vont travailler beaucoup autour de la question de la libre évolution. Donc laisser les forêts en libre évolution, laisser les milieux en libre évolution pour les consacrer totalement au vivant. Qu'est-ce que ça implique et qu'est-ce que ça implique aussi pour nous, pour notre implication sur les milieux. Et la compagnie Les Frais, elle travaille beaucoup autour du son et donc de la création sonore. Et le son, c'est un sens qui est C'est super important pour ressentir le vivant. Donc ça avait beaucoup de sens de faire le lien ensemble pour avoir des expériences un peu plus immersives dans la manière dont on sensibilise au vivant. Et j'ajoute que aussi là-haut, on a travaillé avec eux parce que le second fanzine a été fait avec eux. Et on avait déjà fait un événement avec eux et ça a permis de faire le lien entre là-haut, Wild et aussi les frais.
Tous intéressés par le vivant et puis par les arbres. Alors un hiver non humain, ça nous laisse comprendre qu'on va s'intéresser durant la deux jours aux autres animaux que l'homme, parce qu'il a tendance peut-être à prendre beaucoup de place dans le paysage, particulièrement quand on est en ville, ici à Rennes. C'est peut-être votre idée aussi, qu'on se rende compte qu'il y a du vivant autour de nous, même s'il passe parfois un peu inaperçu.
Oui, alors en fait, l'événement sera vraiment centré sur la ville, sur la cohabitation avec les espèces vivantes, enfin les espèces animales et végétales de la ville. On a vraiment voulu axer là-dessus parce qu'on a déjà envie d'une diversité d'espèces qui est souvent méconnue et qui est déjà souvent riche. Et donc c'est intéressant d'aller se poser la question de où elles sont, comment elles habitent, parfois pas forcément les paysages qu'on imagine, et comment les mettre en valeur ou en tout cas leur permettre d'habiter comme nous, quoi.
Ça nous amène à cette première exposition. Alors, il faut dire qu'il y en aura quatre des projets exposés à l'Hôtel Pasteur les 23 et 24 février. Et parmi ces projets, les vivants dans la ville, c'est réalisé par Fanzine, donc qui édite le Fanzine Cuicui, et puis par Wild Bretagne. Qu'est-ce qu'on voit sur ces cartes ?
En fait, c'est des cartes qui retracent, c'est deux grandes cartes qui retracent l'évolution de la ville à travers des choses très simples. L'évolution de la tâche urbaine, l'évolution des parcelles agricoles, l'évolution de certains éléments du paysage qui sont un peu fondateurs pour montrer comment s'est développée notre emprise sur les milieux naturels et quelle place on laisse aux vivants. C'est des cartes qui sont commentées. À chaque fois, il y a des différents points d'intérêt sur ces cartes sur lesquelles on a ajouté quelques textes pour donner un peu d'indication sur qu'est-ce qu'impliquent les différents aménagements.
Et alors, est-ce qu'on peut donner un exemple de vivant non humain qu'on peut croiser dans Rennes et que peut-être que vous mettez en lumière à travers ce travail de cartographie ?
Alors, en fait, bon, il y en a plusieurs, mais une espèce qui est assez phare à Rennes et qui est pour le coup associée à un espace qui est bien préservé, c'est le martin pêcheur. Le martin pêcheur, c'est une espèce qu'on peut voir assez fréquemment sur les prairies Saint-Martin autour du canal. Et en fait, c'est une espèce qui est complètement dépendante des ripisylves, donc qui sont les boisements autour du cours d'eau. Et c'est que parce qu'on a restauré ces espaces-là que l'on peut revoir le martin pêcheur en ville. Donc ça, c'est une espèce qui est plutôt liée à des dynamiques positives et des dynamiques de renaturation, mais on aura aussi des espèces beaucoup plus urbaines comme le moineau domestique, l'hirondelle de fenêtre, qui sont des espèces qui vont pas forcément très bien et qui sont plutôt liées à notre manière d'habiter les bâtiments, l'espace qu'on leur fait dans nos bâtiments, puisque c'est des espèces qui nichent sur les bâtiments.
Ça, c'est à voir donc à travers un travail de cartographie, les vivants dans la ville qui sera exposé à l'Hôtel Pasteur vendredi 23 et samedi 24 février. Résistance sauvage, c'est une autre exposition à voir sur des animaux qui se rebellent, je n'en dis pas plus. Et Bialowiesa, la dernière grande forêt sauvage d'Europe, eh bien, c'est l'exposition de Wild Bretagne qui a pas mal voyagé dans la région rennaise. On écoute un extrait de l'interview avec Alexandre Patureau qui est déjà venu nous en parler dans la Rennes.
Oui, cette exposition, c'est le résultat de deux mois de voyage à Bialowiesa avec une bande d'amis. On voulait découvrir qu'est-ce que c'est une forêt sauvage parce qu'on voulait comprendre ce qu'on voulait défendre. Et donc, on n'avait jamais vu de forêt primaire de nos propres yeux, de forêt primaire en Europe. Et donc, on a été voir cette forêt et elle ressemble en rien aux forêts qui sont autour de nous. En fait, on a des forêts avec des très grands arbres, beaucoup de bois morts. En fait, on se rend compte que nos forêts qui sont partout autour de nous, elles sont très exploitées. Pour donner un petit chiffre et qu'on s'est renseigné au fur et à mesure, il y a que 0,14% des forêts françaises qui sont laissées en libre évolution à l'état sauvage. Donc en fait, toutes les forêts qu'on voit autour de nous, elles sont souvent très jeunes. Pour donner un autre ratio, pour essayer de voir la différence que ça peut donner, c'est que aussi les arbres, par exemple les chênes, en moyenne dans nos forêts, ils sont coupés quand ils ont entre 100 et 120 ans. Alors que là-bas, à Bialowiesa, les arbres, ils peuvent vivre 400, 600, voire 700 ans pour les plus vieux. Et du coup, ça nous fait des arbres magnifiques, énormes, avec toute une biodiversité très riche à l'intérieur. Et l'idée de cette exposition, c'était de montrer un peu toutes ces spécificités de cette forêt de Bialaweza en mêlant photos et peintures. Donc j'ai pris des photos et mon ami Yann Moisan a fait les magnifiques peintures qui sont autour. Et c'était aussi pour pouvoir soulever la disparition entre le réel et les imaginaires autour de la forêt. Parce que malheureusement, nous, dans notre paysage breton et même en France, on a très peu de paysages primaires qu'on peut voir. Et donc c'est un imaginaire qui disparaît. On voulait le soulever en mélangeant les deux. Et il y a les textes aussi de San Pasquier, qui est la troisième artiste, qui appuie aussi et qui amène des informations sur ce voyage et sur ce vécu qu'on a ressenti. Une exposition à trois mains, quoi.
Et donc après les mots d'Alexandre Paturo de l'association Wild Bretagne qui nous parle de son travail photographique, notamment sur la dernière grande forêt sauvage d'Europe, il y a un dernier travail qui est exposé, c'est celui de Lucie Robin. Elle proposera une envolée à la Courrouze à travers un travail de recherche-création. C'est plutôt photographique
Non, alors c'est des totems en bois qu'elle a créé. Alors Lucie, c'est une artiste qui a beaucoup travaillé sur le quartier de la Courrouze ces dernières années, et elle a créé des totems en bois qui représentent la diversité d'espèces d'oiseaux qu'elle a pu observer dans divers milieux à la Courrouze. Et en fait, en fonction de la qualité, on va dire, la qualité écologique, la diversité du milieu, on voit une diversité d'espèces que l'on peut trouver à la Courrouze. Et en fait, ça vient montrer toute la richesse des paysages et à travers ce travail de documentation.
En plus des expositions qu'on vient d'évoquer, plusieurs animations sont prévues le vendredi et le samedi. On commence avec la journée du vendredi avec un atelier autour d'un livre. Ça, c'est à partir de 14h30 en compagnie de Wild Bretagne. Et puis en soirée, une lecture slam, cette fois-ci avec vous. On donne un peu envie aux auditeurs d'y aller à ces deux propositions.
Alors le premier atelier, c'est l'atelier des Antémondes. Alors c'est un atelier d'imagination collective. L'idée, c'est de se projeter ensemble dans un monde post-capitaliste et post-pétrole, sacré programme.
Le rêve.
Le rêve. Et de se poser la question de qu'est-ce qu'on fait. Et ensemble, on vient travailler par des échanges en petits groupes et en grands groupes une nouvelle société, mais qui est très libre. On peut proposer ce qu'on veut. L'idée, c'est de s'affranchir un peu de ce qui nous limite actuellement dans notre imagination.
Il faut s'inscrire ?
C'est inscription conseillée parce qu'on accepte environ une douzaine de personnes pour que l'atelier puisse se faire.
Ça, c'est pour l'atelier des Antémondes à 14h30 le vendredi 23 février qui s'appuiera sur un livre Bâtir aussi qui est paru aux éditions Cambourakis. Et puis en soirée, là, à partir de 18h, on retrouvera l'équipe de Cui-Cui pour prolonger le dernier numéro du fanzine paru en décembre.
Oui, alors on propose une lecture slam en musique avec des artistes du dernier fanzine où on va lire une partie des textes du fanzine d'hiver et faire la transition avec celui de printemps puisqu'on commence à être à la fin de la saison.
On peut déjà dire quand il sortira le prochain numéro ?
Le prochain numéro, ce sera le numéro d'été, il sortira mi-juin.
Donc il faudra encore un peu patienter. Donc on pourra donc vous retrouver vendredi soir avec les équipes de Cui-Cui, à la fois des illustrateurs, des auteurs, des poètes, des naturalistes. Vous serez présents vendredi à l'Hôtel Pasteur. On passe à la journée du samedi qui débutera à 14h avec un atelier en papier découpé pour imaginer un renne non humain. Et ce sera en compagnie d'une professionnelle justement alors du papier découpé, mais plus globalement de l'animation.
Oui, alors il y a même deux professionnels qui seront là. Il y a Janice Hossel et Adeline Fay, qui sont issus de la même école en plus, donc ça tombe bien.
Toutes les deux bretonnes.
Exactement. L'idée de cet atelier, c'est de créer des portraits d'espèces que l'on observe à Rennes. Donc ça peut être des animaux, des végétaux. C'est libre cours à l'imagination des participants et participantes. L'idée, c'est de faire se rencontrer sur une carte qu'on va mettre à disposition des observations comme ça d'espèces, des portraits participatifs un peu que l'on vient ajouter au fur et à mesure de l'atelier sur la carte.
Sachant que c'est un atelier qui est ouvert à partir de 6 ans et sur les espèces qui pourront être créées à partir de papier découpé sont citées le martinet noir, l'écureuil roux ou encore la pipistrelle commune. Ça, c'est pour l'atelier du samedi à 14h. C'est le moment où on met en lumière la proposition de la compagnie Les Frais, donc une compagnie qui vient de Moisé, qui utilise beaucoup le média radiophonique, ça nous plaît donc à Canal B. Un plateau radio sera organisé dans l'après-midi avec plein de monde autour du micro. Et puis à côté de ça, un répondeur téléphonique un peu particulier.
Oui, alors on a eu cette idée de proposer dans une petite salle qui sera dédiée un combiné téléphonique dans lequel on pourra laisser des messages à des espèces non humaines. L'idée, c'est de se dire, et si on y avait un répondeur, qu'est-ce qu'on aurait envie de leur dire ? Donc on invite les personnes à délivrer tous les messages qu'ils ont envie de passer à des espèces animales ou végétales.
Et en parallèle, pour le plateau radio, on retrouvera qui autour du micro ?
Alors, on retrouvera différentes personnes, dont des naturalistes. Il y aura notamment Chloé Routa, qui est spécialisée en entomophone, Gwenina Lewedek, qui est plutôt spécialisée sur les chauves-souris, notamment, entre autres, et Vera Lorenzetti, qui est une botaniste. On aura aussi Marie-Ange Marchal, qui a travaillé notamment sur les friches en ville, et d'autres personnes que je ne me peux pas encore citer parce que je ne les connais pas encore.
Donc tout le monde les découvrira en même temps samedi. Qui sont les non-humains en ville ? Comment vivent-ils ? Comment les protéger ? Voilà une partie des questions qui seront abordées lors de ce plateau radio en compagnie de la compagnie Les Frais. À 17h15, temps de lecture autour d'une nouvelle des éditions Animal Debout, son titre La Vipère Pléiade numéro 42. Encore un exemple de vivant non-humain qu'on découvrira lors de cet événement à l'Hôtel Pasteur. Qui se terminera avec une projection samedi à 18h où on retrouve la réalisatrice Adeline Fay qui vient d'être citée. J'ai regardé en tout cas un extrait de ce court-métrage, c'est très très joli.
Oui, bon, c'est un univers donc court-métrage autour qui s'appelle Le Chant du Cachalot, autour d'un pitch assez simple. Un gros cachalot s'est échoué en pleine ville et il crée un peu le chaos dans la ville. Comment on fait pour se réunir autour de ce cachalot et de se resolidariser, on va dire, autour du vivant.
Moi, ça m'a évidemment fait penser à cette proposition, je crois que c'était des Tombées de la Nuit il y a quelques années, où un matin, une baleine a été découverte sur le bord de la Vilaine à Rennes. Évidemment, c'était un canular, mais l'espace d'un instant, certains passants ont voulu y croire à cette baleine qui avait débarqué sur les bords de la Vilaine, ici à Rennes. Le chant du cachalot, en tout cas, c'est à découvrir samedi 24 février à 18h à l'Hôtel Pasteur. On ne l'a pas dit, mais tout cet événement, il est proposé à prix libre. Pour plus d'informations, la programmation est à retrouver en ligne, notamment à travers un événement Facebook. Et c'est le moment où je vous représente Timothée. Vous êtes le coordinateur de l'équipe du fanzine Cui-Cui qui a déjà publié 2 numéros et le prochain est à venir et sera publié en été. On en donnera des nouvelles, évidemment. Merci beaucoup.
Merci. Thank you.
Nightjar de Cosmo Sheldrake sur Canal B. C'était le choix musical de Timothée Cantard que vous venez d'entendre dans une interview. Un titre à retrouver sur un album Wake Up Calls qui est sorti en 2020. Et c'est un disque que ce musicien anglais a construit à partir d'enregistrements d'oiseaux menacés par l'homme. Ça colle complètement avec le sujet qu'on vient d'évoquer. L'Arène, l'émission d'info locale de Canal B, se poursuit. Vous pouvez l'écouter sur le 94.0, mais aussi en ligne sur canalb.fr, un site où chaque jour je mets en ligne le podcast de l'émission que vous êtes en train d'écouter. Si jamais vous en ratez une, c'est toujours possible donc de les retrouver en ligne. Avant de se quitter, maintenant la recommandation du jour. La recommandation du jour, c'est à chaque fois en fin d'émission des conseils d'événements à vivre près de chez vous. Parfois de quoi nourrir vos envies de lecture, de podcast ou encore de documentaire. Aujourd'hui, on annonce deux événements à vivre mercredi 21 février. Il y a d'abord plusieurs rendez-vous du Mois du Livre en Bretagne, un rendez-vous orchestré par Livre et Lecture en Bretagne avec le soutien du ministère de la Culture. Et la deuxième édition, elle se déroule un peu partout dans la région, depuis le 12 février et jusqu'au 17 mars. Rien que mercredi 21 février, puisque c'est la date qui nous intéresse, j'ai repéré une rencontre poèmes et confiture avec Olivier Cousin dans la librairie rennaise La Rencontre, un échange avec Myriam Guivic, maîtresse de conférence spécialiste de la littérature orale à Rennes 2, l'autrice et illustratrice Jessie Magana qui sera du côté de Béton, et puis une lecture-spectacle qui nous emmène à Ouessant, et ça c'est organisé à Gonnet, toujours en Ille-et-Vilaine. Le programme complet de cet événement est à retrouver sur le site moisdulivrebretagne.bzh. La deuxième recommandation, c'est une table ronde organisée toujours mercredi à partir de 18h30 à la Maison des Associations de Rennes. Une idée de l'ARMEC, l'association rennaise pour la maîtrise de l'énergie dans les copropriétés, qui propose au public d'échanger sur l'habitat collectif et l'adaptation au climat. Plusieurs intervenants seront là pour en discuter, avocats, professionnels, et on retrouvera l'ALEC du Pays de Rennes, l'Agence locale pour l'énergie et le climat. L'entrée pour cet événement est libre, inscription par email à l'adresse contact.armec@gmail.com. C'est terminé. Une émission d'information locale à écouter du lundi au vendredi à 17h sur Canal B et en rediffusion à chaque fois le lendemain à 8h. Pour suivre l'émission, pensez à vous abonner à la newsletter, le courrier de la Reine. Le détail et les podcasts sont à retrouver sur canalb.fr. Allez, je vous dis à bientôt.